que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. Et on va lire le livre donc des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. Texte bien connu. Les gens montaient ensemble à l'heure de la prière au temple. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour demander. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il marcha. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Dieu, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Quelle expérience extraordinaire. Il y a sur ce texte-là une interrogation qui est vite arrivée quand je méditais ce texte. C'est l'attitude de Pierre. Il n'y a rien qui vous surprend dans leur attitude, dans leur comportement, dans ce qu'ils ont fait. Alors, on connaît tous par cœur, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». C'est même une chanson pour les Anglais. Moi, ce qui m'a étonné, ce qui m'a réellement étonné, c'est l'assurance de Pierre et Jean. Ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Voyez-vous le spirituel d'ombre de lumière et compagnie, voyez-vous la moindre ombre, la moindre présence d'un doute? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Comment en sont-ils arrivés là? Je ne sais pas si on est tous appelés à pouvoir dire ces choses-là à malades. Je ne sais pas si on est tous le don de guérison. Mais moi, ce qui me fait envie, là, c'est leur assurance. Leur assurance. Il n'y avait aucun doute possible sur la volonté de Dieu pour cet homme. Assurance que cet homme serait guéri un jour. Non, à l'instant. À l'instant. Il nous est dit que cet homme n'avait jamais marché. Boiteux de naissance. On le portait. On le portait. Dépendance totale. La vie sociale de cet homme, désastreuse. Il y a longtemps que son ego avait sûrement diminué. Vous imaginez dépendre des autres pour vous déplacer? C'est humiliant. Je pense que l'estime de lui-même était « Vas-y, je te mets là, tends la main. » Et certains aujourd'hui diraient « Et ramène beaucoup d'argent, sinon tu y restes longtemps. » Aujourd'hui, il y a des personnes, font partie d'un trafic pour l'aumône. Mais cet homme-là, il n'y avait pas les assistantes sociales, il n'y avait pas la CAF, les allocations familiales pour l'aider à subvenir à ses besoins. En fin de compte, il gagnait. Donc, il est normal que quand il voit Pierre et Jean s'arrêter devant lui, ils vont faire un chèque, là, c'est bon, tout va bien. Non, je n'ai ni argent ni or. Quelle déception pour cet homme encore, mais devant aucun doute sur la volonté de Dieu. Et c'est ce qui m'interroge ce matin. Comment avait-il cette assurance? Très simplement, parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Étymologiquement, connaître, c'est connaître, naître avec. Naître avec, comme deux jumeaux. On est avec, On sait ça, c'est Dieu, d'une manière intime. Leur foi reposait sur l'intimité qu'ils avaient avec Dieu, parce qu'ils connaissaient Dieu. Quelle est l'intimité avec Jésus? Et c'est ce que j'aimerais aborder ce matin avec vous. Parce que combien de fois je me sens faible? Hier, j'étais en formation toute la journée. On a eu un moment de partage autour de la foi. J'ai été très, très surpris, très étonné. J'ai donc partagé ma foi vivante. Mais une foi vivante, elle ne se manifeste pas. Elle doit être visible. La foi de Pierre et Jean, elle était évidente, là. Cet homme n'avait pas demandé la guérison. Mais il a obtenu la guérison. Et j'aimerais voir avec vous différents aspects de l'intimité avec Jésus. Le premier, c'est la foule. Il était entouré d'une foule de personnes qui le suivaient. C'est une manière de suivre Jésus. Bon, je ne vous parle pas de ceux qui ne le suivent pas, ça c'est un autre souci. Mais observons ceux qui suivent Jésus. Verset 1 nous dit ceci. « Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'y assit. Toute la foule était... » Écoutez l'enseignement de Jésus. Jean 6, 26, on dit ceci. « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » La foule est là, elle écoute Jésus, Jésus les a nourris. J'aurais aimé... J'aimerais voir là, le pain se multiplier, le frigo se remplir, parce que les fins de mois sont difficiles. Seigneur, où... ça m'est arrivé, ça. Petite expérience, c'était pas prévu, mais je voulais... J'étais jeune homme, je comprenais pas l'orientation que prenait ma vie professionnelle. Et j'étais en train de chercher un emploi. Et un soir, quand je rentre à la maison, je trouve sur le répondeur de la maison un message X. Je suis chef du bureau d'études d'une société qui se trouve à Rousset. J'aimerais vous rencontrer. 60 km aller, 60 km retour, moyen de locomotion, mobylette. Mobylette, j'étais jeune, là, c'était donc, j'avais 25 ans. Bon, j'y vais, hein. J'avais jamais envoyé mon CV dans cette société. Et là, c'est mort. Je cache la mobylette dans un coin, je me change, je mets le costume et compagnie, et j'ai cet entretien qui se passe très bien. Et puis après, donc, il faut rentrer à la maison. Fiat maximum. Donc, il manque de l'essence pour faire 20 km. Pas de problème, j'avais prévu de la monnaie et compagnie, je m'arrête à première station-service, fermé. Deuxième station-service, elle était ouverte, mais il ne faisait pas de deux. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ta volonté, mais je n'ai pas demandé à aller là. Alors, je veux te voir agir, œuvrer. Je ne veux pas rentrer à la maison en poussant la mobylette. Ni en... Débrouille-toi. Mais je veux arriver à la maison, le moteur tournant. Je suis arrivé, le moteur tournait. J'ai eu de l'essence pour faire plus de 20 km. Et Dieu est capable de cela. J'en vis cette foi que j'avais à cette époque. Mais Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Ça a été dit dans un don spirituel, ça a été dit dans l'un de nous. Et Jésus, lorsqu'il s'adressait à cette foule, très certainement ce qui devait choquer, interpeller les gens, c'est l'amour que Jésus manifestait pour eux. Ils avaient faim. C'était l'abondance, il en est resté 12 corbeilles. Incroyable. Dieu aime, il est passionné par nous, il nous aime tels que nous sommes. C'est pour ça que les gens suivaient Jésus. Mais avec le peuple. Mais avec le peuple, il était amour. Ah, il était capable de dire, tu es un pécheur, mais je t'aime. je t'aime, il n'y a pas de souci. On règle la situation et suis-moi. Mais le problème de la foule, et je ne sais pas si vous, vous suivez les actualités, mais une foule, des fois, nous fait faire des choses absolument incroyables. Quand il y a des manifestations où les foules deviennent violentes, des fois, on a des témoignages de personnes qui ont été violentes. Je ne sais pas, ça ne me ressemble pas. Mais j'ai fait. La foule a dit, on le voit dans Jean 12, ils prirent des branches des palmiers, ils allèrent au-devant de lui, criant « Hosanna ». Quelques jours après, ils ont dit « Crucifie, crucifie ». La foule. La foule. La foule admire un jour. La hile le lendemain. La foule reçoit des bénédictions, tellement de choses, de grâces, et elle jette des pierres derrière. Elle est superficielle. Elle est spectatrice. Elle est versatile. Alors quand la foule est en... Ça va. Il nous est dit quelque part dans les lettres de... dans les épîtres de Paul qu'on peut être enseigné à tout vent de doctrine. Qui, en prenant du recul, on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est la première... premier cercle de relation avec Jésus. Est-ce qu'on est dans la foule? Est-ce qu'on fait partie de la foule? Moi-même, je me pose la question aussi, on va continuer. Deuxième cercle, un peu plus proche de Jésus, je pense aux 70. Luc 10, 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et les envoya deux à deux, devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Et le verset 17, « Les 70 revinrent avec joie, même nous sont... » Là, on voit qu'on passe à une autre dimension. On n'est plus dans la foule, on se rapproche de Jésus, on est dans les 70. Et là, les 70 sont missionnés. Jésus les envoie. Il les envoie, et là, il se passe des miracles. Il se passe des délivrances. Ah, oh, Seigneur, c'est extraordinaire. Ça ne vous fait pas envie, ça, déjà? Là, on est passé de la foule aux 70. On se rapproche de Jésus. Jésus commence à augmenter. Et là, le Seigneur nous a parlé, « Toi et toi, vous allez aller là-bas, et vous allez parler en mon nom. Et vous allez voir ce qui va se passer. » Ordinaire. Bon, servir Dieu de cette manière-là. Moi, j'ai faim et soif de ça. Mais on n'est que 70, on va aller encore plus loin. Mais Jésus leur dit quoi? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Seigneur. C'est la temps et compagnie, le Seigneur nous ramène à la réalité, boum. Ça fait écho à un autre texte où le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connu. » Complète, je ferme à ça. Je paraphrase. « N'avons pas accompli des miracles? N'avons-nous pas fait ceci, cela en ton nom ?» Mais oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vous connais pas. L'action de Dieu avec ma position quant à Dieu. Dieu est bon. Et ce n'est pas parce qu'au travers où je suis peut être un instrument, Dieu se manifeste. Dieu. J'aime bien cet exemple. Ça nous ramène à la réalité. Dieu s'est servi d'une ânesse pour parler. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. C'est sa gloire. Et s'il utilise un canal, quel qu'il soit, pour manifester sa gloire, c'est son droit. Il répond à la foi de quelqu'un. Regardez là, il était question de la femme à la perte de sang. Elle a eu la foi, elle a obtenu. Il ne faut pas confondre l'action de Dieu avec l'outil, le moyen. Dieu est capable de se servir de toute sa création. Et s'il a la bonté, la générosité, la gentillesse, mettez le qualificatif que vous voulez, de se servir de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes bons et parfaits. En fin de compte, oui, les 70 ont pu vivre ces choses-là. Les démons leur sont soumis, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu une autorité par délégation. La maladie sur les démons. Ce n'est pas eux, par leurs propres moyens, par leurs propres forces, il en est... Non. On est misérables. Mais 70 ont été missionnés par Jésus. Et Jésus est inscrit dans les cieux. On peut être servi, on peut servir activement et voir la puissance de Dieu profonde. Je ne vous ai jamais connu. Moi, ça me fait peur, ça. Autant les miracles, on avait tous envie d'être des 70, nous autant, quand on rappelle... Veillons à cette intimité avec Dieu, mon nom inscrit. Je rappelle la parabole des 10 vierges. Ce n'est pas des incroyants. Hein. Elles attendent le retour de l'époux, l'arrivée de l'époux. Toutes. Moi, ça les attend. Mais il y en a qui ont des réserves et pas d'autres. Seigneur, que mes réserves soient pleines. Et ça, ça dépend de moi. Hein. Ça ne dépend pas de l'époux. Hein. Allez, je ne vais pas prêcher sur les vierges. Mais il ne faut pas... Le diable sème la confusion. Cherche à ce qu'on mélange les choses de telle manière à ce qu'on perde cette assurance et finalement on soit parmi les vierges folles. Je ferme la parenthèse. La foule, 70, allez, on se rapproche encore de Jésus. On arrive aux 12. Vous les connaissez, les 12 ? Les 12 apôtres. Moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. On va encore plus loin. La foule qui reçoit, qui est témoin des miracles et qui bénéficie des miracles. Les 70 de leurs concitoyens. Les 12. Pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi, ça ? On prend un poisson et on le sort de son milieu. Pêcheurs d'hommes, on prend l'homme. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on participe non pas à la guérison physique, mais à la délivrance de l'âme. On devient des témoins, acteurs, on participe au fait que les gens autour de nous le saluent. On ne va pas sauver. Mais là, on passe dans une autre dimension. On n'est plus dans la dimension physique, mais on est dans la dimension spirituelle. Les 12 ont tout quitté. Famille, travail, pour suivre Jésus. Abandonner les projets. Il était question de projets dans un monde spirituel. Oui, suivre Jésus, ça coûte. Ça coûte. Être 12, ça coûte plus que 70. Même si les 70 sont partis un temps en mission, ils sont revenus à la maison, ils avaient femme, enfant, maison et compagnie, tout allait bien pour eux. Leur quotidienne. Ils étaient artisans, patrons, ouvriers, fonctionnaires, médecins, tout abandonné pour suivre Jésus. Suis-je prêt à payer ce prix-là ? Seigneur, la maison que j'ai durement travaillé. Suis-moi. Tu manqueras de rien. Seigneur, le travail que j'ai, il est pas mal quand même. Hein. Ouais, je sais. Suis-moi. Mes 12 ont tout abandonné pour une chose, pour marcher avec lui. Les 70 ont marché devant Jésus, ils étaient envoyés, alors que les 12 ont côtoyé avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils rigolaient avec Jésus, ils pleuraient avec Jésus, ils parlaient avec Jésus. Ça fait envie. Franchement, ça fait envie. C'est ma tante dans l'église. Ah, là, sérieux, je vibre pour ça. Mais malgré tout, il y a un hôtel à bâtir et se mettre dessus. Avec Jésus, il partage les enseignements. Il y a l'enseignement que Jésus donne à la foule, et puis après, il y a le cours particulier avec ses disciples. Souvent, « Seigneur, explique-nous. Explique-nous. » Mais elle donnait un cercle plus restreint, ce que j'appelle le cours particulier. Étant enseignant, je sais ce que c'est qu'un cours particulier. Faire cours à 30 ou faire cours à 12, c'est pas là. Je préfère 12 que 30. Parce qu'on peut avoir une relation avec son élève et répondre d'une manière personnelle à ses interrogations. 30, on n'a pas le temps. Il y a trop de monde. Mais les disciples, ils avaient accès à cette finesse de l'enseignement de Jésus. Mais je dois le dire aussi, ils ont eu accès à la persécution. Pierre a renié, Thomas a douté, Judas a trahi. Au pied de la croix, il n'y avait plus grand monde. Pouf. Parti. Malgré tout, ils avaient un engagement quotidien avec Dieu qu'ils ont maintenu proche du cœur de Jésus. Et quand bien même il y a eu une période de trouble où Jésus étant et sacrifié, cette période de doute-là, qui ne l'aurait pas eu ? On se serait tous carapatés, peut-être. Est-il que Jésus a pris soin d'eux malgré tout. Et lorsque Jésus est ressuscité, il s'est montré à chacun d'eux. Cela. Tu croyais peut-être que les paroles que j'ai pu prononcer étaient des paroles en l'air ? Non. Non. Et ce qu'on a fait au maître, on va le faire aux disciples aussi. Mais je serai avec vous. Entrez à ses disciples, fortifiant leur foi. Ils sont devenus des hommes extraordinaires pour la suite des événements. Les 12, je regarde l'heure. On est passé à la foule, mouvante. 70 qui sont des instruments pour accomplir la gloire de Dieu, des miracles, des instruments choisis entre les mains de Dieu. Les 12 qui partagent l'enseignement incroyable avec Jésus. On va aller encore plus loin. Un autre cercle. Les 3. Pierre, Jacques et Jean. On voit plusieurs fois. Par exemple, Marc 5, 37. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. C'est l'épisode de la fille de Jaïrus. Et c'est bon, tout le monde dehors, mais je garde avec moi Pierre, Jacques et Jean. Là aussi, c'est intéressant comme situation. Jésus a fait le ménage. Il en a gardé 3. Plus loin, enfin, autre épisode, Matthieu 17, versets 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Les visages devinrent blancs comme la lumière, la transfiguration. Là, alors là, je veux monter sur la montagne, Seigneur, je veux voir ça. Là, je vois Jésus non plus uniquement dans son enveloppe humaine. Bon, ils ont eu des propos un peu étranges. Tu ne veux pas qu'on monte des tentes et compagnie, mais bon, ça, c'est humain. On est devant dans l'étonnement. Et des fois, on divague un petit peu. Mais qu'aurait-on fait à leur place ? J'en sais rien. Ah, mais Seigneur. Connaître cette intimité, cette partie de toi. Ils ont découvert un aspect de la divinité de Jésus. À œuvrer pour la fille de Jaïrus. Mais c'est aussi les disciples que Jésus a choisis à un moment donné. Matthieu 26, 37. Il prit avec lui. Elle commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Pierre, Jacques et Jean étaient les disciples que Jésus a choisis pour prier avec lui dans le jardin de Gethsémané. Est-ce qu'on voit déjà une différence entre les 12 et les 3? Il y a une intimité qui fait que Jésus partage avec eux ses joies, mais aussi ses peines. Il partage avec sa souffrance. Il leur dit, j'ai besoin de vous. Venez prier avec moi. Suis-je en mesure d'entendre aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur va trouver en moi quelqu'un avec qui il va pouvoir partager sa peine? Je ne sais pas. Ou peut-être que je sais, mais ça regarde chacun d'entre nous. Mais nous pouvons être un de ces trois. Ce n'est pas réservé à une élite. Unité avec Dieu, au point où Dieu est capable de partager ce qui le peine. David, tu vois, dans ta vie, il y a ça qui me peine. L'entreprise dans laquelle tu travailles, dans l'église, il y a ça qui me peine. Est-ce qu'on pourrait prier? Est-ce qu'on pourrait entrer en lutte, en combat pour ça? Il ne va pas nous demander de débarquer à un endroit et prendre les armes pour se séparer. C'est intercéder spirituellement pour une situation qui est compliquée dans l'Église, qui est compliquée dans notre famille, qui est compliquée dans notre vie personnelle. Est-ce que je suis en mesure d'écouter l'attente des adorateurs en esprit en vérité? Ils cherchent. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a renoncé à tout. Abraham a renoncé à sa filiation en offrant Isaac. Mais il avait renoncé à tout. L'adorateur a renoncé à tout. Dieu cherche des adorateurs, des personnes qui ont renoncé à tout. J'aime cet exemple de... On va glisser vers le dernier point qui est de passer de 3 à 1. Jean. Pourquoi je parle du 1 pour Jean? Disciple que Dieu aimait, mais quel est le degré d'intimité avec Jésus? On va le trouver dans Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, chez Jésus. Quand on est couché sur le sein, sur la poitrine de quelqu'un, quelle est la particularité? On entend quoi? Est-ce qu'on a 1 mètre? À 10 centimètres? Il faut poser l'oreille sur la poitrine. Entendre le cœur de Jésus, t'imagines? Jésus. Entendre le cœur de Jésus qui monte dans les battements parce qu'il y a une émotion. Ou entendre le cœur de Jésus parce qu'il reste dans la paix. Entendre le cœur de Jésus, c'est recevoir ses émotions. Le cœur de Jésus, c'est trouver la paix pour moi. Parce que dans une situation où je ne maîtrise rien, être sur la poitrine de Jésus communique. Regardez un enfant qui est agité. Il ne va pas trouver du réconfort chez n'importe qui. Hein. Un enfant qui a peur, qui est effrayé, il va voir qui? C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas jugé, il n'est pas condamné, mais il se sait aimé. Et puis, il sait que, une fois que je suis dans les bras de mes parents, je suis en sécurité. J'entends le cœur de mes parents battre, mon père. La mère, c'est encore une autre. Pendant 9 mois, l'enfant a grandi avec ce cœur qu'il écoutait. L'intimité, cette intimité tellement proche qu'il n'y a rien qui peut se glisser entre Jésus et couché sur la poitrine de Jésus. Quelle belle position. Entendre le cœur de Jésus battre. Il Il y a un autre homme qui a vécu une chose extraordinaire avec Dieu, c'est Moïse. Une illustration, parce que je voulais rester autour de Jésus. Mais Moïse avait une telle relation, une telle intimité avec Dieu qu'il a même demandé à Dieu de le voir, de le rencontrer. Et Dieu lui a dit « Non, tu ne peux pas vivre et me voir ». Mais Dieu a voulu manifester, Dieu l'a protégé pour éviter qu'il ne meure. Il a pris soin de lui. Mais Moïse, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Jean a vu quelque chose d'extraordinaire. N'a-t-il pas vu cette vision extraordinaire de l'Apocalypse ? Mais phénoménal. Dans cette intimité avec Dieu. Il nous a été rappelé ce matin que dans un don spirituel que nous sommes. Il est en nous. Mais alors, je suis full, je suis 70, je suis 12, 1. Comment grandir dans l'intimité avec Dieu ? Je rêve cette intimité avec Dieu. Il y a ce verset qui m'est venu. On va le lire ensemble. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Oh, connu aussi. 1 Thessaloniciens, verset. Trois mots. Priez sans cesse. Ah, j'ai eu un amen. Ça ne vous interroge pas, ce verset ? Comment prier sans cesse ? Comment ? Seigneur, moi, je veux bien vivre, lire Tesla, mais comment ? Il faut bien que j'aille bosser. Il faut bien que je travaille avec ma famille. Il faut bien que je dorme. Il faut bien que je mange. Il faut bien que, des fois, un peu de loisirs aussi, Seigneur. Mais oui, 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 je suis d'accord. Priez sans cesse. Il faut se souvenir ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas forcément être à genoux. En fin de compte, la prière, c'est un échange avec Dieu. Ça veut dire qu'on peut parler n'importe quand avec lui. On pourrait dire prier sans cesse, parler sans cesse avec Jésus. Échanger, que ce soit notre compagnon, il est défini comme ça, notre compagnon de route, il marche avec nous. Mais si je marche et que je vais parler avec lui, vous comprenez la dimension du prier sans cesse ? Et pourquoi prier sans cesse est important ? On se connaît. Beaucoup moins que quand on a 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Au bout d'un certain temps, il suffit de se regarder, on sait ça. Parce qu'on a eu des échanges, on s'est fréquenté. Un mariage distant, je vis à Lyon et de temps en temps, on s'appelle et compagnie. Au bout de 20 ans, on ne se connaît toujours pas. Mais pour se connaître, on vit avec. Tout à l'heure, je disais connaître, naître avec. Pour connaître son époux, son épouse, il faut une réaction. Et ce qui est étonnant, c'est que parfois, au bout d'un certain temps, il y a un certain mimétisme qui opère. Et presque l'un peut terminer les phrases de l'autre. Ah bah tiens, tu réagis comme ta femme. Mais parce qu'il y a un mimétisme. On est tellement proches. L'un a des teintes sur l'autre. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais donc, pour avoir cette intimité avec son conjoint, c'est parce qu'on a vécu des choses ensemble. Des joies et des peines. Chérie, il faudrait appeler le banquier, là. Le compte est dans le rouge, là, il faudrait... ça arrive. Ou alors, tu voudrais pas faire des heures supplémentaires ? « Oh, regarde, on a reçu un virement, là, je ne sais pas d'où ça vient, mais merci Seigneur, regarde, on a trop donné aux impôts, ils nous remboursent. Ce n'était pas prévu. » Et puis ça arrive juste au bon moment, quoi. Et on vit des... On devient non seulement intime, mais très intime. et l'un déteint sur l'autre. Ah, c'est quelque chose qui est intéressant, ça, l'un déteint sur l'autre. Quand je suis proche de Jésus, l'un déteint sur l'autre. Alors là, ça ne marche pas trop. Moi, je ne vais pas déteindre sur Jésus, ce n'est pas possible. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il va déteindre sur moi? Et ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des Français qui ont développé une telle intimité avec Dieu que lorsqu'ils se déplacent, il y a la paix avec eux. Il y a quelque chose avec eux. J'ai connu ça. J'étais adolescent dans l'extraordinaire. On ne l'entendait jamais. Pas un mot plus haut que l'autre. Quand elle priait, ce n'était pas dans l'extravagance, mais c'était dans la profondeur. Il fallait appeler parce que c'est qu'il y avait un problème. Elle vivait une situation difficile dans sa famille. Elle était persécutée par sa fille parce qu'elle habitait avec sa fille. Mais elle était là. Personne, quand elle se déplaçait, cette odeur de Christ qui voyageait avec elle, c'était extraordinaire. Et ce parfum de Christ n'existe pas en bouteille. On ne peut pas l'acheter, celui-là. Mais on le gagne par la proximité avec Jésus. Sans cesse. C'est cette intimité avec Dieu. La lecture de la parole est très, très importante aussi. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons quoi? Nous découvrons qui? C'est la parole, ce que nous lisons, la parole de Dieu. On découvre son cœur aussi. Parce que là, ah, j'avais pas vu les choses comme ça, Seigneur. Merci. Parce que l'esprit qui est en nous, nous permet si vaste de sa parole. Pour ça qu'on peut la lire et la relire. Et encore, et toujours. Vous êtes lassé de lire la parole de Dieu? C'est que vous la lisez mal alors. Mais si on la lit avec découvrir quelque chose de toi, nouveau, quelque chose de nouveau, je veux le découvrir. Moi, j'ai découvert dans ce texte de Pierre et Jean cette assurance. Mais parce que je me suis arrêté sur ce texte, je me suis interrogé. C'est ça, méditer. Qu'est-ce qui a attiré de cela? En fait, quand prier, c'est parler à Dieu et l'écouter. Dieu nous parle par son esprit, par sa parole. Tout ça, ça fait partie du processus de dialogue avec Dieu. Dans notre chambre, à la cuisine, dans notre culte personnel, ça, il faut le garder. Mais ce n'est pas parce que j'ai fermé la Bible et c'est bon, j'ai fait mon culte, que j'en oublie mon compagnon de route, qui est mon Dieu, qui marche avec moi. Hors de la maison, je peux être en prière. Quand je suis au volant de ma voiture, je peux être en prière. Quand je suis en train de passer un coup de téléphone à un de mes fournisseurs et lui faire des remontrances parce qu'il a fait n'importe quoi, je peux être en prière aussi. Et c'est bizarre, pas moi. Même si je peux être strict et rigoureux sur mes propos, je ne sombre pas dans la colère. Pourquoi? Parce qu'en étant proche de Dieu, ce qui est étrange, c'est que je suis aussi revêtu des sentiments qui étaient en Christ, parce que Jésus déteint sur moi. Jésus déteint sur moi. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu ce Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Si vous ne l'êtes pas, c'est pour vous aussi. Et lorsque nous prions en langue, s'édifie lui-même. Pourquoi on va se priver de cela? Pourquoi on va se priver de cela? Est-ce que tu pries en langue que le dimanche matin? Prie sans cesse. Prie en langue. L'Esprit sait. Et parce que tu parles en langue, l'Esprit de Dieu façonne, te façonne, fait le tri, fait le ménage dans ton cœur. Il t'édifie. Et pour faire le ménage dans ce qu'on est. Avant de bâtir, on fait le ménage. On fait les fondations. Et pour bâtir, on choisit les matériaux. Et il y a un ordre pour ça. J'ai jamais vu une tuile se... Pour poser la tuile, il faut que les murs soient posés et la charpente aussi. Sinon, ça ne marche pas. Tu sais comment tu dois être bâti, toi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je dois être bâti, mon Créateur. Et parce que je maintiens cette communion, je prie en langue, il m'édifie, il me bâtit. Pour faire quoi ? J'en sais rien. Ses plans sont mystérieux. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ce qu'il a prévu, c'est que ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Prier en langue nous permet d'être renouvelés. Bon, je regarde là, j'en finis. Jean 3:30, il faut qu'il croisse et que je... Je parlais d'ordre. Hein. Là, c'est quoi l'ordre ? Qu'il croisse. Et naturellement, je vais diminuer. Si je m'approche de Jésus, naturellement, mon pécheur va diminuer. Souvent, on fait l'inverse. « Ah, je ne suis pas assez bien, il faut que je fasse ceci, cela pour me présenter devant Dieu. » Ça ne marche pas. Parce que là, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et là, on est en train de lutter contre nous-mêmes. Non, de découler. Alors, on a des efforts à faire quand même. Mais... Allez, j'en termine. De la foule aux 70, des 12 aux 3, cette intimité avec Dieu dépend que d'une seule personne. Que d'une seule personne. De moi. De chacun d'entre nous. Tu décides d'être dans les vues de mal, c'est mieux que de ne pas y être. Mais sache que la foule a dit crucifie. Et là, tu vas dire, « Oh mince, il est revenu. Je suis toujours là. » Tu vis des expériences avec le Seigneur. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie ? Je ne vous ai jamais connu. D'où on a ce relationnel avec le Seigneur, où on a une qualité supérieure au niveau de l'enseignement, une meilleure révélation. On a des combats plus grandes de qui est le Seigneur. On partage ses peines, on est dans le combat, pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. On est un, on connaît le cœur. Mais le secret des grands hommes, c'est l'intimité. J'avais deux exemples que je n'ai pas donnés, je vais quand même les donner. Vous connaissez le plombier du Seigneur ? Smith, mon anglais, John et Martin. Un pasteur britannique, on lui a posé cette question, combien de temps il priait ? Et il a fait cette réponse, je ne prie pas si je ne laisse jamais passer 30 minutes sans prier. Ce n'est pas la longueur d'une prière qui va faire que, c'est la fréquence. La puissance de l'eau est extraordinaire, on peut couper des pierres avec de l'eau. Ou si on fait un goutte à goutte, les résultats vont être différents. Avec un goutte à goutte, quand les 10 tonnes seront tombées, il y aura un beau trou. Mais si on le fait en une seule fois, l'eau va glisser, c'est fini. En fin de compte, c'est la fréquence du Seigneur qui est importante. Et j'avais un autre... Cet homme, Le Tourneau, je crois, qui a écrit « Dieu dirige mes affaires ». À un moment donné, il dit dans son livre qu'il avait pris l'habitude de prier dans son bureau le matin. Et un jour, il avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et on serait tenté de dire, Seigneur, allez, je me lance dans mes affaires. Non, il disait, je paraphrase, à chaque fois qu'il avait davantage de travail, il passait davantage de temps dans la prière. Et chose extraordinaire, le travail à la fin de la journée était fait. L'agenda de la journée, il se demandait comment ça allait rentrer dans la journée, parce qu'il a mis Dieu en premier. Dieu lui donnait du succès dans ses affaires. Alors on ne va pas tous être des millionnaires et des milliardaires, hein. Mais mettre Dieu en premier. Succès dans les affaires de Dieu pour nous. Travailler à l'intimité avec Dieu va nous donner du succès dans les affaires que Dieu a pour nous. Et moi, ça me fait envie. Être un Pierre, un Jean, tout plaisir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas dans quel cercle d'intimité vous êtes. Si vous êtes sur le cœur de Dieu, vous êtes à la meilleure des places. Si vous n'y êtes pas encore, rapprochez-vous, il y a de la place. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu as les bras ouverts pour nous accueillir. Je prie pour mes bien-aimés et pour moi-même, afin que nous puissions connaître ton cœur, aller jusque-là. Oui, il y a un prix à payer. Mais Seigneur, qu'il est tellement bon d'entendre ton cœur battre avec toi. Merci de nous bénir chacun les uns et les autres et nous permettre de partager ces instants d'intimité avec toi. Nous avons faim et soif de toi. Que cette faim et cette soif grandissent encore dans le nom de Jésus. Amen.